Vous écoutez RTL.
RTL.
Ok, j'ai peut-être quelque chose dans la trace. Du 4 temps.
Il n'y a pas de sous-marin à 4 pales.
Je sais.
La curiosité est un vilain défaut.
Rendez-vous avec les nageurs, là, c'est oui ou c'est non?
Le fond du loup. Elle nous a détecté second.
Poste de combat, tu diffuses.
On doit récupérer les nageurs, c'est la mission.
C'est nos frères en face, là.
C'est pas nos frères, ce sont des marins, ce genre de tir.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Extrait de la bande-annonce, Le Chant du Loup, c'est un film RTL, film d'Antonin Baudry avec notamment Omar Sy, Mathieu Kassovitz et une très très belle affiche.
Reda Kateb aussi.
Et Reda Kateb évidemment. Bonjour Sébastien Malouagne.
Bonjour à tous les deux.
Vous n'êtes pas un acteur, vous êtes un capitaine de vaisseau, ancien chef d'escadrille des sous-marins de Toulon. Dans ce film qui sort mercredi prochain au cinéma, le personnage principal est une oreille d'or. C'est quoi une oreille d'or dans un sous-marin nucléaire ?
Alors, pour expliquer ce que c'est qu'une oreille d'or, il faut d'abord dire qu'en fait, sous l'eau, il n'y a pas grand-chose qui passe. C'est-à-dire que la lumière, elle ne dépasse pas quelques mètres, donc vous ne voyez rien. Et sur un sous-marin, il n'y a rien qui ne permet de voir à l'extérieur pour cette raison-là.
Donc on n'utilise pas les yeux.
On n'utilise pas les yeux. Et on n'utilise pas de radar non plus, parce que les ondes électromagnétiques du radar, ça ne passe pas non plus sous l'eau. Donc il ne reste que le son. Et donc tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut essayer de percevoir de l'extérieur, c'est au travers du son. Donc on écoute.
Avec un casque, comme nous à la radio, là ?
Alors on écoute avec des sonars, avec un casque, etc. Et vous voyez dans le film ce qu'on appelle des opérateurs sonars. Et puis dans la classe de tous les gens qui utilisent ces sons et qui les décryptent pour savoir ce que c'est, il y a des experts. Alors, vous avez l'opérateur sonar qui est derrière son sonar, qui écoute, lui, il va dire ça, c'est un animal, c'est un dauphin, c'est un cachalot, et puis ça, c'est un bateau, c'est peut-être un cargo. Puis il y a des moments où il va dire ça, je ne sais pas très bien ce que c'est, j'ai du mal, c'est bizarre, c'est comme ci, c'est comme ça. Et là, on appelle l'expert, qui est l'oreille d'or. Et lui, son métier, c'est de dire, d'écouter, prendre un air inspiré et de dire là, ça, je sais ce que c'est ça, c'est telle frégate, c'est tel bateau. Où ça n'est pas ce qu'on cherche.
Un cachalot, ça fait ce bruit-là dans l'eau. Quand on est dans un sous-marin, on entend ça. Il faut vraiment avoir une oreille, Sébastien Malouagne.
Exactement. Alors, c'est très troublant parce que le cachalot, c'est presque humain comme bruit. En fait, c'est un claquement qui est dans le crâne de l'animal, des os qui claquent et qui lui servent en fait à faire comme un sonar, à faire de l'écholocation.
Et on avait appris ici qu'ils ne font pas le même bruit en fonction des océans. Il y a des langues étrangères chez les cachalots.
C'est vrai. En revanche, les icebergs font peut-être toujours le même bruit, je sais pas. On l'écoute. Ça, c'est incroyable, un iceberg.
S'imaginer dans la carlingue d'un sous-marin en train d'écouter ça.
Là, un iceberg, c'est comme un glaçon dans votre verre qui craque, sauf que ça fait, c'est la même chose en plusieurs centaines de tonnes. Donc c'est plus grave.
Et un bateau, par exemple, un chalut, ça fait ce bruit-là dans l'eau.
Alors là, effectivement, c'est un chalutier, donc vous entendez le bruit d'un petit moteur diesel qui va assez vite, vous sentez qu'il force. Et puis derrière, vous entendez des bruits de chaînes qui cliquettent, parce que sur le chalut, en fait, il y a des chaînes qui relient le bateau en fait, au bout du câble. Il y a des chaînes entre le bout du câble et le début du chalut.
Tiens,
donc c'est un chalutier.
Et voilà un ennemi des oreilles d'or. Alors pourquoi on les aime pas quand on est dans un sous-marin
nucléaire ?
C'est
quoi ça d'ailleurs ?
Sébastien Malouagne, ce sont des crevettes.
Les crevettes claqueuses. Alors les crevettes claqueuses, en fait, c'est un animal comme les autres, mais elles font beaucoup de bruit. Ils sont très bavardes, ces crevettes claqueuses. En plus, il y a des horaires particuliers ou des immersions particulières où elles sont nombreuses parce qu'elles se déplacent pour manger, etc. Et là, elles saturent et elles font beaucoup de bruit. C'est un peu comme si on essayait de vous dire, essayez d'entendre le son d'un joueur, d'un instrumentiste particulier dans un concert,
un brouhaha,
orchestre qui est en train de répéter.
Ah, il faut détecter.
Et d'un seul coup, on augmente le bruit de tous les autres instruments et on continue à vous demander de repérer le même. Ben voilà, les crevettes, elles font plein de bruit autour et c'est très très difficile de sortir le bruit qui vous intéresse.
C'est pas évident parce qu'un oreille d'or ou des oreilles d'or sur un sous-marin nucléaire doit détecter, j'imagine, un autre sous-marin. Un sous-marin, ça fait pas de bruit par définition ?
Alors effectivement, c'est en tout cas ce qui fait le moins de bruit. Ça fait toujours un petit peu de bruit, mais ça fait beaucoup moins de bruit que le reste. Après, il y a des maladresses, il y a des erreurs. Par exemple, quand on fait des exercices entre nous, on s'aperçoit que parfois on arrive à détecter l'autre parce qu'il y a quelqu'un à bord qui a laissé tomber un marteau dans un compartiment sur la coque et le choc métal sur métal va faire un bruit.
Mais attendez, on va l'entendre à des kilomètres dans la mer ?
Pas à des kilomètres, mais à des centaines ou milliers de mètres, peut-être pas beaucoup plus.
Ouais.
Vous avez aussi ce qu'on appelle des transitoires. Il y a des bruits à bord, des ouvertures de portes. Dans le film, on le voit à un moment, il y a une porte de missile qui s'ouvre. Ça, forcément, ça fait un peu de bruit. Mais ça va s'entendre. Donc ça va sortir du bruit de fond, en fait.
Et le film auquel vous faites référence, pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, c'est Le Chant du Loup, qui sort mercredi prochain, qui est un thriller. Vous l'avez vu ? C'est fidèle à ce que vous vivez dans les sous-marins
Alors d'abord, je l'ai adoré. C'est un film magnifique sur le plus beau métier du monde. C'est clair. Et en ça, c'est très très fidèle à la vie à bord. Je parlerai pas du scénario, qui est le propre et la liberté du réalisateur, mais la vie à bord, il a été très, le réalisateur Antonin Baudry a été très perfectionniste sur la façon de la traduire. Il nous a demandé beaucoup de conseils et c'est très très fidèle.
Et le chant du loup, alors ce titre assez énigmatique et poétique, est-ce que c'est un terme que vous utilisez, vous, les sous-mariniers nucléaires ?
Alors, pas ce terme précis-là, mais en fait, le réalisateur a bien compris que les oreilles d'or, justement, et tous les gens qui travaillent autour des sonores, ils ont besoin de traduire des sons en mots. Donc, ils ont des expressions assez imagées. Alors, on parle de bruit de glouglou, de puits-puits, on parle de déchirement d'étoffe, parce que ça fait le même bruit qu'un drap que vous déchirez. On parle de cliquement, de cliquetis métallique, etc. Et le chant du loup, c'est un terme qu'il a inventé, mais qui traduit assez bien ça, c'est-à-dire la nécessité de traduire un bruit de façon évocatrice, parce que le bruit du sonar de la frégate qu'on entend dans le film, ça fait un peu un hurlement de loup, d'une part. Et d'autre part, quand on dit chant du loup, il y a la notion de menace. C'est un peu craint, c'est un loup, c'est un animal agressif, etc. Donc ça associe bien les deux. Donc il a bien compris l'esprit, mais par contre ce terme-là précis est inventé.
Allez, on embarque dans un instant dans un sous-marin nucléaire d'attaque. Attention, ne prenez pas trop de bagages à l'intérieur. Vous avez seulement droit à 1 mètre carré. Comment les sous-mariniers vivent-ils cette exiguïté et cette tension permanente? Le récit, c'est tout de suite sur RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Soudain, il apparaît à la surface de l'eau. Le Casabianca, un sous-marin nucléaire d'attaque. Le pacha, comme on dit dans la marine, c'est lui, le commandant Arnaud Berthet, 38 ans.
Sidonie Bonnec.
Depuis son périscope, il conduit la manœuvre de plongée.
Thomas Hugues.
Le masque de ski lui permet de s'habituer à l'obscurité. Sa vision est ainsi meilleure pour regarder à la surface où il fait nuit.
Sur RTL.
Et on embarque à bord de ces sous-marins nucléaires avec notre invité, capitaine de vaisseau, le capitaine de vaisseau Sébastien Malouagne. Vous êtes pacha aussi, c'est ça ? On vous appelle pacha à bord ? Comment ça marche ?
Alors, en général, on vous appelle commandant.
Oui. Mais
effectivement, on dit le pacha, le vieux, l'ancien. Enfin, il y a plein de termes. Oui.
Ouais, il y a plein de surnoms. Et les bateaux, les sous-marins portent un nom aussi. Est-ce que vous avez un attachement ? Votre vie est entre les murs, non ? La tôle de ce sous-marin, il y a un attachement pour ces bateaux?
Ah oui, bien sûr, il y a un attachement énorme. C'est une carrière assez longue parce qu'il faut se former. Ça dure 22 ans au total sur les sous-marins pour faire un commandant de SNLE, 15 ans pour un commandant de sous-marin nucléaire d'attaque. Donc vous passez par tous les bateaux et chacun a sa personnalité. Moi, j'ai des souvenirs marquants, par exemple, du Ruby sur lequel a été tourné le film, qui est un sous-marin qui est le premier sous-marin nucléaire d'attaque français. Donc il a toute une histoire, il a ses petites histoires, il a son passé. C'est le même que les autres, mais pas tout à fait le même en même temps.
C'est quoi un sous-marin nucléaire d'attaque? Ça sert à quoi?
Alors, il y a deux types de sous-marins en France. Il y a 6 sous-marins nucléaires d'attaque qui sont en fait des sous-marins d'attaque, c'est-à-dire des sous-marins qui font toutes les missions d'observation, de suivi d'une frégate, d'un autre bâtiment, d'un autre sous-marin, d'escorte du porte-avions, de dépose ou de récupération de commandos, comme on le voit dans le film, qui peuvent aussi bien sûr lancer des armes, des torpilles et des missiles, dont la propulsion est nucléaire, ce qui leur donne une grande autonomie, ça leur permet d'aller loin et longtemps. Et puis vous avez des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins qui sont beaucoup plus gros, qui embarquent 16 missiles balistiques avec des têtes nucléaires, qui sont des mini-fusées aériennes avec une tête nucléaire, qui ont une portée de plusieurs milliers de kilomètres, qui assurent la mission de dissuasion. Donc eux, leur mission n'est pas du tout la même.
Donc ils patrouillent dans l'eau comme ça pour faire peur aux autres pays en quelque sorte.
Leur métier, c'est de faire peur, mais par leur existence, donc pas par la visibilité de leur présence. Au contraire, ils vivent cachés.
Voilà. Par leur existence et leur discrétion. Parce que
exactement.
Vous êtes
tout à savoir,
ils sont. Mais ils sont dans nos eaux, quoi. Ils sont dans l'Atlantique.
Ah, ça, je ne vous dirai pas où ils sont, mais ils sont.
Ils ont ce qu'on appelle. On ne veut pas de coordonnées géographiques.
Voilà, ils sont ce qu'on appelle dilués. C'est-à-dire que juste précisément, on ne sait pas où ils sont, donc ils ne sont pas menacés.
Alors, dans un sous-marin nucléaire d'attaque, si j'ai bien compris, plus petit qu'un sous-marin nucléaire lanceur d'engin, il n'y a pas beaucoup de place par définition. Vous êtes combien à bord et combien de mètres carrés par personne?
Alors, il y a à peu près 70-75 personnes pour un bateau qui fait 70 mètres. D'ailleurs, c'est amusant parce que c'est une règle qui marche assez bien. Sur SNLE, il y a 110 personnes pour 130 mètres. Ouais. Donc, vous avez toujours un peu la même proportion. En fait, ces personnes, quand vous faites l'inventaire des locaux, ce qu'on appelle les locaux de vie, les locaux où les gens vivent à bord, là où ils dorment, là où ils prennent leur repas, il y a à peu près 70 mètres carrés.
Donc c'est 1 mètre carré par personne.
Exactement. Ouais. Donc, fermez les yeux. Imaginez-vous dans un appartement de 70 mètres carrés, à 70,
c'est
pendant
beaucoup
plusieurs semaines, avec 3 douches et 2 toilettes.
C'est bien pour le loyer, ça coûte moins cher, mais c'est pas facile.
3 douches.
Non, c'est pas facile.
3 douches et 2 toilettes, ça veut dire qu'il y a, un tableau de service avec qui a le droit de se
doucher. Ça se passe bien, pas d'inquiétude.
Donc vous partagez aussi un même oxygène, 70 personnes dans 70 mètres carrés, et comment il se renouvelle cet oxygène?
Là aussi, c'est quand même assez bien conçu, c'est-à-dire que dans l'air, effectivement, il y a 70% d'azote qui sert pas grand-chose, 20% d'oxygène et puis d'autres bricoles. L'homme a besoin d'inspirer de l'oxygène et en respirant, il le transforme en CO2. Et ben, on a ce qu'on appelle des usines, donc des petites des machines à bord en fait, qui produisent de l'oxygène à partir de l'eau de mer. L'eau de mer, c'est H2O, donc on casse H2O en deux et on produit de l'O2 et on rejette l'H2. Et puis qui élimine le dioxyde de carbone produit par l'homme. Donc on régénère le même air. Mais l'air que vous respirez, en fait, tous les autres l'ont déjà respiré. C'est toujours le même.
D'accord. Sébastien Malouagne, vous nous disiez tout à l'heure que une erreur, c'est-à-dire le fait de faire tomber un marteau sur la tôle, ça pouvait alerter des ennemis éventuels. Est-ce que ça veut dire qu'à bord d'un sous-marin nucléaire, on chuchote ou est-ce qu'on se parle normalement quand même ?
Alors, les conversations, quand même, ne passent pas au travers de la coque. Mais ce qui est vrai, c'est que dans les moments de tension, il y a une tendance naturelle, effectivement, à chuchoter. Parce qu'on sait qu'on cherche à pas faire de bruit. On le diffuse, on le dit à tout le monde. Parce que, justement, il faut pas que quelqu'un dans un compartiment laisse tomber le marteau ou le tournevis. Et donc, tout le monde a tendance à être plus concentré et, effectivement, naturellement, à baisser sa voix.
Ouais. Je passe du coq à l'âne. Est-ce qu'il y a des femmes dans les sous-marins nucléaires ?
Alors, la marine est assez féminisée à 14% ou 14-15%. Et donc, les sous-marins suivent le mouvement, sont féminisés depuis, au travers d'une expérimentation. Depuis l'année 2017, il y a 4 femmes qui ont navigué sur SNLE et qui ont déjà fait une patrouille.
Pourquoi ? Parce que c'est dangereux d'avoir des femmes à bord. L'émission dure assez longtemps. C'est en vase clos. Il y a des
mal
histoires
à porter
d'amour.
Les marteaux, c'est ça.
Non,
le
mais moi, je me dis que c'est plus parce que s'il y a des histoires d'amour, si on pète les plombs, enfin, tout de suite, c'est compliqué
c'est
quand on est dans un.
C'est une vanne, je vais recevoir un courrier gigantesque.
Quand on est dans un huis clos comme ça, c'est compliqué, bon. C'est ça, de mélanger des femmes et des hommes.
Moi, je n'ai pas dit que les femmes avec des marteaux étaient dangereuses.
Non,
je
ne l'ai pas dit. Pas, c'est moi.
En revanche, non, il était difficile de fournir aux marins des deux sexes, en fait, des conditions en même temps, des conditions d'habitabilité qu'ils étaient en droit d'exiger.
Voilà. À cause donc, de la promiscuité, en gros.
Voilà, ouais. Donc il a fallu le faire sur un gros bateau, et il a fallu modifier un peu les choses pour expérimenter. Voilà.
Alors, on a encore plein de questions à vous poser, évidemment, plein de questions de curieux sur RTL. Tiens, par exemple, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un se blesse ou tombe malade alors que les missions sont censées
avec
durer
un marteau
de longs mois avec un marteau et que ce soit une femme ou un homme qui s'en serve ? Allez, réponse à venir sur RTL.
Thomas Hugues. Sidonie Bonnec.
Sonar, ici Central. Vous l'avez retrouvé, Jones ?
J'ai un contact très faible.
Sur RTL.
Le voilà. Contact Typhon numéro 7, relèvement 250, exactement à la place prévue. Croyez-vous qu'il ait détecté notre présence ?
Non, commandant, aucun signe n'en témoigne.
Gouvernez au 265. Amenez-vous tout doucement derrière lui, Thompson.
Bien, commandant. Ici Central, immersion 350 mètres.
La curiosité est un vilain défaut.
Officier torpilleur, vérifiez la solution de tir. On tirera de près, je ne veux pas lui laisser la moindre chance de riposte.
Extrait de La Poursuite d'Octobre Rouge avec Sean Connery. Nous aussi, on est dans un sous-marin.
J'ai adoré ce film. Sauf qu'il est peut-être un peu trop vieux. Sébastien Malouagne pour être Pacha Sean Connery, non ?
Oui, mais il est russe, donc bon, ils ont leur propre mœurs.
On sait jamais.
Moi, j'ai choisi ce métier-là parce que j'ai lu ce bouquin.
Ah, c'est vrai ?
Donc, je trouve que le film est très, très
Qu'est-ce
bon,
qui vous a donné envie dans ce film et dans ce livre ?
Il y a toutes les raisons
Sébastien
pour lesquelles
Malouagne.
On est dans ce métier. Il y a de la vie en équipage, il y a de la technique, c'est de la technologie, c'est moderne. Et puis, c'est l'aventure. C'est un métier hors du commun, c'est des choses pas courantes.
J'allais vous demander, justement, dans un sous-marin nucléaire, quels sont les métiers qu'on peut croiser, qui ne sont pas des métiers communs pour nous, les terriens, par exemple ?
Il y a beaucoup, beaucoup de métiers. Je crois qu'il y en a un peu plus d'une trentaine. Alors, vous avez bien sûr des métiers essentiels à la vie de tous les jours. Vous avez des cuisiniers, vous avez un commis au vivre.
Il fait quoi le commis au vivre ? Il garde les courses ?
Ouais, il fait plus que ça. Il gère les stocks. Il est choisi, il pilote les menus, etc. Et c'est un vrai métier à plein temps.
Est-ce qu'il faut plaire
Il faut qu'on mange bien.
Il faut garder le moral, et c'est important pour garder le moral. Mais il y a surtout ceux qui font tourner le bateau. Il y a des mécaniciens, les électriciens, des atomiciens.
Les atomiciens ?
Alors, les atomiciens sont tous les gens qui travaillent sur la chaufferie nucléaire, qui ont des formations assez longues. Alors, on les recrute, la marine recrute de la 3e à Bac plus 5 à peu près. Donc, on peut les recruter à tous les niveaux, et puis les faire monter par des formations, si les gens sont sélectionnés, jusqu'à des métiers d'atomiciens en charge de la chaufferie nucléaire, avec à la fin des métiers qui sont celui qu'aurait un ingénieur dans une centrale EDF, en fait.
Vous nous rappelez combien de temps peut durer une mission à bord d'un de ces sous-marins nucléaires ? C'est plusieurs mois ?
Alors, plusieurs mois. En fait, la grande limite, ce sont les vivres, c'est-à-dire la quantité de nourriture qu'on a à bord. On parlait tout à l'heure de l'air, on régénère notre air. Mm-hmm. De la même façon, on fait bouillir de l'eau de mer pour avoir de l'eau douce. Donc, on a tout ce qu'il faut, sauf une limite finie de nourriture.
Donc, on n'a pas de rab à la cantine. On ne peut pas venir servir dans le frigo quand on est sous-marinier. Tiens, j'ai un petit peu faim, parce que c'est compté, en fait.
Faire attention. Et en plus, on a un peu tendance à grossir parce que c'est assez sédentaire, quand même. Le bateau n'est pas très gros.
Et donc, ça fait quoi ? Ça fait 3 mois, 4 mois, je ne me rends pas bien compte.
L'ordre de grandeur, c'est entre 2 et 4 mois. Oui.
Et bon, qu'est-ce qui se passe s'il y a quelqu'un qui est gravement blessé ou malade à bord ?
Alors, sur les plus petits des sous-marins, sur les SN1 qui, eux, peuvent parler, puisque leur mission leur permet de faire surface, d'échanger, etc. Vous avez un infirmier qui est un infirmier plus, un infirmier qui sait faire beaucoup de choses. Mmh. Et puis quand il ne sait plus faire, bah, il peut contacter la Terre, avoir l'avis d'un médecin. Et puis, par un élitreuillage ou en déposant le malade à terre, l'envoyer dans un hôpital dans un délai raisonnable, en fait. Sur les SNLE, dont la mission, on ne souhaite pas interrompre la mission parce qu'il y a une maladie à bord, donc vous avez, parce qu'il y a un malade à bord, donc vous avez un médecin, donc un toubib, on l'appelle le toubib, vous avez deux infirmiers avec lui, dont un anesthésiste, et puis vous avez une infirmerie qui est en fait un vrai bloc opératoire, et vous avez une capacité de conduire certaines opérations qui vous permet de rester discret, de ne pas parler avec la Terre si vous avez un problème médical à bord.
Et vous, Sébastien Malouagne, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de devoir accompagner des sous-mariniers au bloc opératoire
Alors non,
dans un des sous-marins
nucléaires. Ça comme une chance, je n'ai jamais eu sur mes bateaux de malades que j'ai dû opérer. En revanche, dans le métier de second sur SNLE, de commandant en second, on doit aller s'entraîner parce qu'on est censé à bord aider un peu le toubib pendant l'opération. Donc on va en bloc opératoire à terre pour s'entraîner à ça, ce qui est assez amusant, enfin disons c'est nouveau. Quoi.
J'espère que ça ne vous est jamais arrivé, mais s'il y a un mort à bord, qu'est-ce qui se passe?
S'il y a un mort, on le traite, on le garde, vous imaginez où on peut le mettre et...
Non.
Un endroit qui conserve par le froid. Quoi.
Dans une chambre froide.
Ouais.
Entre 2 et 3 mois de mission, mais comment les sous-mariniers font-ils pour rester en contact avec leur famille? Réponse maintenant sur RTL. Et puis dans la seconde partie de l'émission de la curiosité, on va vous raconter l'effervescence des années folles.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.
Et avec le capitaine de vaisseau Sébastien Malouagne, on découvre la vie quotidienne à bord d'un sous-marin nucléaire. Vous partez pour des missions très très longues, c'est entre 2 et 3 mois. Évidemment, on ne sait pas où les sous-marins nucléaires se baladent. C'est un secret d'État. Il faut pourtant communiquer de temps en temps avec sa famille. Ça se passe comment? On s'envoie des petits SMS? Non, ça passe pas.
Alors non, pas de SMS malheureusement. En fait, donc les sous-mariniers qui sont à bord, eux, ne parlent pas, puisque le bateau n'émet rien. En revanche, ils peuvent recevoir chaque semaine un message de leur famille. Alors, comme les moyens de propagation de ces messages sont limités en débit, on limite la taille de ce message, et donc ce message est limité à 40 mots par semaine. C'est ce qu'on appelle le familigramme. Et c'est quelque chose qui est très attendu par les marins chaque semaine. C'est un peu comme recevoir son courrier par la poste. Quoi.
On
reçoit son familigramme.
De tout dire, c'est-à-dire les bonnes, les mauvaises nouvelles
Plutôt les bonnes quand même. Plutôt les bonnes. C'est important que ce soit plutôt des bonnes. Donc on fait en sorte que ce soit plutôt des bonnes qui arrivent.
Ouais, pour maintenir le moral à bord. Quand on est le commandant, et vous l'avez été pendant de longues années, d'un sous-marin nucléaire... Il y a aussi malheureusement des mauvaises nouvelles. Je sais pas, il peut y avoir un décès dans une famille, etc. Est-ce qu'on prévient au moins le commandant? Comment ça se passe?
En fait, le commandant choisit un peu comment il veut être prévenu. Les familles, les gens qui sont à bord, les marins savent que ça se passera comme ça et que de toute façon, comme ils ne pourront rien faire, ils ne seront au courant qu'à la fin en revenant.
Juste avant d'arriver, ouais, c'est ça. Ouais.
40 mots, c'est pas grand-chose de la part de la famille comme espace et comme contenu d'information. Est-ce qu'il y a des ruses, je sais pas, des abréviations comme on utilise dans les SMS aujourd'hui?
Il y a un certain nombre d'abréviations qui sont usuelles, qui sont connues, qui permettent de gagner des mots. Le je t'aime beaucoup ou je t'attends impatiemment.
C'est comment ça?
Je ne sais rien, ça doit être JT, MB ou quelque chose comme ça. Je ne les connais plus, mais qui sont connues, utilisées pour gagner des mots. C'est bien le sujet, oui.
Vous êtes plus à, vous êtes plus pacha, vous êtes plus à bord, c'est ça?
Non, moi je suis plus à bord.
Ça vous manque?
Oui, ça me manque clairement. Oui, ça me manque clairement, mais c'est le cours des choses. Moi, j'ai fait toute ma carrière sur sous-marin. J'ai eu la chance de terminer en étant ce qu'on appelle chef d'escadrille des sous-marins à Toulon, comme vous le dites, parce que en fait, dans la marine, on a une partie de notre charme, c'est qu'on aime bien les choses compliquées. Donc, on a des grades qui sont compliqués.
Et c'est quoi ça, chef d'escadrille alors?
Ah voilà, justement, un groupe d'avions, vous appelleriez ça comment vous dans les armées? Vous appelleriez ça une escadrille?
Bah oui, ce serait logique.
Ah, voilà. Ouais. Bah dans la marine, un groupe d'avions, on appelle ça une flottille.
C'est génial.
Et un groupe de sous-marins, eh ben on appelle ça une escadrille. Voilà.
C'est votre poésie à vous.
Exactement, c'est une forme de poésie. Donc voilà, moi j'étais chef de l'escadrille des sous-marins de Toulon, c'est-à-dire les 6 sous-marins qui sont à Toulon. Et c'était ma dernière affectation dans la partie sous-marine de ma carrière et c'était un de mes meilleurs moments.
Et ben voilà, merci beaucoup
Sébastien Malouagne. Et je rappelle que le film RTL d'Antonin Baudry, Le Chant du Loup, sort mercredi prochain et que c'est un très 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 beau film.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.